bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. C'est vrai que c'est toujours vraiment une joie de se retrouver après la trêve estivale, de revoir des visages aimés, puis d'en connaître d'autres aussi. Je vous propose un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Luc, chapitre 10, verset à partir du verset 25. Un passage bien connu de l'Écriture qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Donc, Luc 10, verset 25, un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, donc à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » L'évangéliste Luc met dans cette histoire en scène un spécialiste de la loi, un nomikos, comme c'est dans le texte original. Et c'est en tant que juriste théologien, chargé de garder et d'enseigner la loi, que lui, le juriste officiel est reconnu, teste l'orthodoxie du rabbin amateur qu'il voit en la personne de Jésus. Sa question n'a pas pour but de s'instruire, mais de vérifier si l'enseignement de Jésus est correct ou répréhensible. Notez qu'il donne tout de même à Jésus du maître, au sens de celui qui enseigne. On est entre spécialistes. On fait comme si. Alors voilà sa question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? La question est-elle sincère ou purement rhétorique ? La mention du verset 25 « pour le mettre à l'épreuve » plaide plutôt pour une question rhétorique. Jésus répond par une autre question. Vous avez peut-être remarqué que c'est une technique qu'il emploie quasi systématiquement envers les questions non sincères. Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? Et là, il touche aux 2 aspects de la spécialité de ce spécialiste de la loi, le contenu de la loi et la façon de la comprendre ou de l'interpréter. Et sur ce plan notamment, les scribes, comme lui, étaient très forts, développant à l'infini toute une casuistique découlant selon eux de la loi. La casuistique, c'est le fait de développer toutes les applications possibles d'un commandement, dans tous les cas possibles de la vie, ou imaginables, même de la vie courante. Et pour ça, ils étaient très forts. Et ce spécialiste donne, curieusement, si je puis dire, une réponse excellente. Joignant les deux commandements essentiels d'aimer le Seigneur de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Et d'ailleurs, Jésus, lui, tu as bien répondu. Il est tout à fait d'accord avec la qualité de cette réponse. Et il donne alors seulement sa réponse à la première question qui lui avait été posée. Rappelez-vous, c'était comment je pourrais faire pour hériter de la vie éternelle. C'est tout simple. Tu appliques ce que tu viens de dire et tu vivras, c'est-à-dire éternellement. Si la question du scribe avait été sincère, il se serait contenté de la réponse de Jésus et aurait mis tout son cœur à conformer sa vie à ce qu'il venait de citer. Mais il reste bien sûr sur le plan de la casuistique, son domaine de prédilection, et il pose une autre question voulant se justifier. Là, on touche au cœur du débat. Il veut en fait se justifier. Se justifier de quoi ? Eh bien, de toutes les occasions où il n'a pas aimé son prochain comme lui-même, occasion que sa conscience lui reproche. Alors, pour s'en sortir, il attend de Jésus une définition du prochain. Dans l'optique juive de l'époque, le prochain était essentiellement mon alter ego, celui qui est comme moi, de ma race, de ma classe sociale, celui qui mérite d'être mon prochain. Et là, Jésus va lui donner une réponse magistrale. Il l'avait appelé maître, là il aura la réponse magistrale. Celle du maître infaillible qui va travailler sa conscience et non simplement satisfaire sa curiosité intellectuelle par une parabole à coup sûr terriblement provocatrice dans la mentalité de l'époque. Et c'est l'histoire que nous venons de lire. On va relever ensemble quelques points de cette parabole. Donc Jésus met en scène un fait divers, tout à fait plausible et malheureusement fréquent, semble-t-il, sur cette route qui va de Jérusalem à Jéricho. Par hasard, un prêtre, puis un lévite, passe par le même chemin et évite soigneusement de s'occuper de ce pauvre malheureux, comme on l'a lu. Il passe à distance. Ce « à distance », c'est l'inverse même de ce que signifie le mot « prochain », le voisin, le proche, le parent. Ceux qui sont censés enseigner la bonté et la compassion s'esquivent devant cette situation de détresse de ce pauvre homme. Pourtant, un juif comme eux, ils n'ont même pas l'excuse du préjugé racial. Mais un samaritain le voit. Il est ému. Le mot original signifie que ça lui remue les tripes. Il s'approche et il prend soin de lui. Et pas un soin à moitié, vous avez remarqué. Il soigne ses plaies, il le charge sur sa propre monture, il l'amène dans une auberge où il prend encore soin de lui, une auberge où il passe probablement la nuit, peut-être aussi à le veiller d'ailleurs, et le lendemain, il le confie aux soins de l'aubergiste en pourvoyant lui-même aux frais engagés avec l'intention de s'assurer que tout s'est bien passé lors de son retour. On appellerait ça de nos jours en jargon médical une prise en charge holistique, un mot bien compliqué, qui veut dire simplement qu'on s'efforce de prendre en charge tous les besoins de la personne souffrante. Et Jésus conclut son récit de cette façon étonnante, avec cette question étonnante du verset 36. Jésus lui dit, lequel de ces trois, donc le lévite, le prêtre et le samaritain, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Le spécialiste de la loi avait demandé « Qui est mon prochain ?» C'est-à-dire, de toutes les personnes que la vie met sur mon chemin, lesquelles sont dignes de ma compassion, de mes soins, en un mot, de mon amour ? Et vous remarquez que Jésus a retourné la question. Des trois personnes qui sont passées près de ce malheureux, laquelle a montré qu'il était le prochain de l'homme à demi-mort ? La question centrale n'est donc pas « Qui dois-je considérer comme mon prochain pour l'aimer comme le commande la loi ?» mais qui a démontré qu'il était vraiment le prochain du malheureux? Cette réponse de Jésus démontre, je pense, la pertinence de ce qu'affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4, verset 12, où il dit « Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Mais au-delà de cette façon incomparable que Jésus avait de donner de vraies réponses à de fausses questions, cette parabole comporte un enseignement essentiel pour notre compréhension de la pensée divine concernant nos rapports avec nos semblables, nos prochains. J'ai regardé juste quelques passages où on retrouve le mot « prochain » dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, à la fin du verset 9 et le verset 10, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça, on connaît bien. Ce qui suit, l'amour ne fait donc pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En Éphésiens 4, verset 25, le même Paul dit « Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » La raison est là, nous faisons partie les uns des autres. Et l'apôtre Jacques, dans le chapitre 2 de son épître, au verset 8 et au verset 11, écrit « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Car celui qui a dit « Ne commets pas d'adultère » a dit aussi « Ne commets pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Alors pourquoi je vous cite ces trois versets où il est question du prochain et où il est question de faire du mal ou de commettre un meurtre? C'est parce que vous avez entendu cet été, un médecin urgentiste du sud de la France aurait euthanasié au moins 4 de ses patients. C'est le personnel du service où il travaille qui l'a dénoncé, ce qui a conduit à sa mise en examen, l'euthanasie, quel qu'en soit le motif, étant interdite en France. Comme lors d'autres cas semblables, cela a déclenché une série de réactions, plus ou moins bruyantes, le plus souvent d'ailleurs en faveur de l'euthanasie, c'est-à-dire du droit au suicide assisté médicalement, voire au droit pour les médecins de donner la mort directement, généralement mais pas toujours, à la demande expresse du patient ou de sa famille. Les médias qui se sont fait écho de cet événement ont mis en avance le respect du serment d'Hippocrate et que c'était le devoir que le médecin incriminé avait respecté le serment d'Hippocrate. Il me semble que nous, chrétiens, nous devons réfléchir à ces questions pour nous forger des convictions bibliques. Hippocrate était donc un médecin grec qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Son enseignement et ses disciples qui l'ont suivi étaient étonnamment en contraste avec les mœurs de son époque. Dans la mentalité grecque de l'époque, la valeur de la vie humaine était très loin de la conception chrétienne ou juive. Les plus faibles, les enfants, surtout malades ou mal formés, les handicapés mentaux, les vieillards, étaient considérés comme pas tout à fait des personnes. Et la société avait donc le droit de vie ou de mort sur ces personnes, sur eux, notamment au sein de la famille où le pater familias avait pratiquement tous les droits. Hippocrate, lui, bien avant l'ère chrétienne et sans contact, semble-t-il, avec la religion juive, avait adopté et enseigné des principes surprenants pour son époque. En voici quelques-uns parmi les principaux. D'abord, il exigeait un apprentissage rigoureux et approfondi de la médecine, donc un devoir de compétence. Deuxièmement, le devoir du médecin était de porter secours aux malades et d'éviter de leur nuire. Je vous cite Hippocrate, « Je conseillerais aux malades le traitement capable de les soulager, et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible. Celui qui prêtait ce serment se refusait à utiliser ses compétences médicales pour attenter à la vie humaine, par l'empoisonnement ou l'avortement, par exemple. Je vous cite encore Hippocrate, « Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir. » On trouve aussi dans les écrits d'Hippocrate que le médecin idéal devait faire preuve d'un amour et d'une sollicitude désintéressée, non pas simplement à l'égard de la société, mais envers l'humanité dans son ensemble. Je vous cite encore Hippocrate, les termes VS sont un peu curieux, mais bon, c'est le style de l'époque, hein, que le médecin, à l'instar d'un dieu sauveur, se fasse l'égal des esclaves et des pauvres, des riches et des dirigeants, et qu'il sache s'occuper de tous comme un frère, car nous sommes tous enfants d'un même sang. Étonnant, hein ? L'apôtre Paul reprendra quasiment les mêmes paroles. Vous remarquez qu'on a lu en Éphésiens 4, 25, « Car nous faisons partie les uns des autres hein, », avait dit Paul. N'est-il pas fascinant qu'un médecin païen, grec, hein, que sa médecine ait eu pour fondement une conception de l'humanité si proche de la religion chrétienne à venir. Hippocrate, outre les principes éthiques qu'il avait mis en œuvre et enseignés, avait compris un élément fondamental de la relation médecin-malade, cet élément c'est la confiance. Les médecins de son époque étaient redoutés, parce qu'il était de notoriété publique qu'il maniait aussi bien les remèdes que les poisons, au gré de leurs convictions intimes ou des pressions qu'ils subissaient. Hippocrate avait compris qu'un engagement inébranlable à ne jamais donner la mort était la base même d'une relation confiante. Alors, si le serment d'Hippocrate ne peut justifier, contrairement à ce qu'ont dit les journalistes, ce qu'a fait ce médecin, ne peut-on pas invoquer la compassion envers celui qui souffre ? Le fait de donner la mort n'est-il pas finalement un témoignage d'amour envers le prochain ? Ce que plaident entre autres les partisans de l'euthanasie. Je pense que l'enseignement biblique barre la route formellement à une telle tentation. Donner la mort à son semblable, même avec les meilleures raisons, n'est pas du ressort de la créature. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre dignité vient de là. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre du Créateur, abîmés certes par le péché, mais chefs-d'œuvre quand même. Le rôle du médecin est celui d'un restaurateur de chefs-d'œuvre, dans la limite des compétences techniques qui sont les siennes, et en respectant le plan de l'artiste du chef-d'œuvre. Mais en aucun cas, il ne peut s'arroger le droit de le détruire. C'est dans un corps humain que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu s'incarner, donnant à notre corps une dignité et une valeur que nous ne pouvons estimer, argument auquel un incrédule, bien sûr, n'est pas sensible. Nous sommes tous des personnes connues et aimées de Dieu, depuis le sein de notre mère et jusqu'à notre mort. Quelle que soit notre déchéance physique, notamment intellectuelle, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu, celle de la vie de son propre Fils. Il est frappant de constater que l'histoire nous montre que ce sont les chrétiens qui ont prodigué et organisé leurs soins aux plus démunis, aux pauvres, aux exclus, aux plus faibles, aux enfants, aux vieillards, dès l'Antiquité et ensuite dans toute l'histoire de la chrétienté. Cela ne manquait pas d'ailleurs d'étonner les autorités païennes de l'époque. L'empereur Julien, par exemple, qui a tenté d'endiguer la secte des chrétiens, s'est un jour exclamé « Ils ne se contentent pas de nourrir leurs pauvres, ils nourrissent même les nôtres. » L'histoire montre ainsi que les pays où ont régné les grandes religions de ce monde, dont certaines beaucoup plus anciennes que le christianisme, n'ont pas développé de structures de soins pour les malades, pour les pauvres, pour les vieillards, pour les enfants abandonnés, les intouchables, etc. Ce sont des médecins et des infirmières chrétiens qui ont implanté et développé des hôpitaux dans ces pays, et ce, pratiquement jusqu'au siècle dernier. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient nourris et animés de l'éthique de Jésus de Nazareth et de son enseignement radical sur la valeur de la personne humaine et de l'amour mêlé de respect qu'elle mérite à tout âge de sa vie et quel que soit son état, sa position dans la société. De nos jours, les pays qui autorisent plus ou moins la pratique de l'euthanasie, comme les Pays-Bas par exemple, sont ceux qui sont le plus en retard dans le domaine des soins palliatifs aux personnes en fin de vie. Ce n'est pas un hasard. On appelle soins palliatifs des soins qui n'ambitionnent pas de guérir le malade, mais de soulager et de l'accompagner jusqu'au bout. Économiquement, il est clair que l'euthanasie est infiniment moins coûteuse que les soins palliatifs qui, s'ils ne nécessitent pas énormément de moyens techniques, nécessitent en revanche beaucoup de personnes, beaucoup de personnel. On sait à l'heure actuelle maîtriser de façon satisfaisante, dans l'immense majorité des cas, le problème de la douleur. Mais la souffrance des personnes en fin de vie ne se résume pas à la douleur. La crainte de la déchéance physique, de la perte de la dignité, de la solitude, est au moins aussi importante que celle de la douleur physique. Mais ces soins-là sont de très gros consommateurs de présence, du personnel soignant, de bénévoles, de familles, d'amis. Ce n'est pas la brillante médecine technicienne si gratifiante pour l'ego de ceux qui l'exercent, mais des soins qui allient compétence et surtout compassion, sollicitude et par-dessus tout, présence auprès de celui qui s'en va. Fort heureusement, notre pays s'est engagé dans cette voie-là, avec un encadrement législatif correct et l'attribution de moyens, certes encore insuffisants, mais il y a quand même des moyens, les moyens nécessaires à la mise en place des unités de soins palliatifs au sein des hôpitaux et qui même peuvent de plus en plus intervenir au domicile du patient. Il y a là, pour les chrétiens que nous sommes, un champ de travail où nous pouvons démontrer, à l'instar du Samaritain de la parabole, que nous voulons être les prochains de ces personnes. Il y va de notre dignité d'enfant de Dieu, d'être les imitateurs de notre modèle, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a démontré qu'il était notre vrai prochain jusqu'à mourir pour que nous ayons la vie. Mais si nous sommes des fils de notre Père Céleste, nous sommes et demeurons ses créatures, ses chefs-d'œuvre un temps abîmés par le péché mais destinés à la vie éternelle. Et il ne nous convient en aucun cas de disposer de la vie humaine, que ce soit la nôtre ou celle de nos frères en humanité, car il s'agit là d'une prérogative réservée à Dieu seul. S'arroger cette prérogative, même avec les meilleures intentions, est une résurgence de la vieille tentation d'Éden, vous serez comme Dieu. Alors, frères et sœurs, soyons les prochains de nos semblables, avec cet amour surnaturel que Dieu seul peut communiquer, et restons humblement dans les limites que notre Père Céleste, dans son infinie sagesse, nous a tracées. Je vous propose que nous prions ensemble. Merci Seigneur de nous avoir tracé la voie de façon aussi magistrale comme on le voit dans cette parabole. J'imagine combien le cœur de ce spécialiste de la loi a dû être transpercé quand il a entendu cette histoire. Et on peut espérer que ça a changé sa vie. Mais pour nous, nous avons cette responsabilité d'être les prochains, des plus démunis, des plus malheureux, des plus faibles, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en fin de vie, de ceux qui sont handicapés, de ceux que la société rejette. Et tu ne nous demandes pas de mettre fin à leur vie, tu nous demandes d'être là, tu nous demandes une présence auprès de ces personnes. Seigneur, que ce soit vraiment un fardeau qui soit sur les cœurs de chacun, dans la limite des possibilités, bien sûr, et des compétences de chacun, de pouvoir simplement être présent partout où il y a besoin de communiquer l'amour du Christ. Dans le nom de Jésus, Amen.